وبعد. الله عز وجل يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. الله dans le Coran dit: et tu es certes d'un comportement, d'une moralité عظيم, à savoir grandiose, immense. Et lorsque Allah dit ça dans le Coran, il parle bien sûr du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous dit qu'il a un comportement grandiose pour bien sûr nous interpeller et nous dire que le prophète, ce qui fait qu'il a eu l'amour de ses compagnons, qu'il a eu la réussite fait dunya et fait l'akhira, une des principales causes bien évidemment c'est ce comportement grandiose qu'il a fait, qu'il a traversé les siècles et les époques, et jusqu'à aujourd'hui encore, malgré le matraquage médiatique, vous trouvez des livres qui ont été écrits à toutes les époques par des non-musulmans, des philosophes, des penseurs, des intellectuels, qui parlent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils disent que c'était un grand homme. Hein? Malgré au jour d'aujourd'hui, le fait que dans les médias, souvent on parle de l'islam, et on en parle d'une mauvaise façon, mais celui qui lit et qui s'instruit verra que, à toutes les époques, ce qu'on a aussi en Occident appelé le siècle des Lumières, des gens comme Voltaire, ils parlent de Mohammed alayhi wa sallam, et ils en parlent bien. Et d'ailleurs, à ce propos, souvent, les intellectuels parlent de Voltaire, qui a écrit une pièce de théâtre sur le fanatisme religieux, et ça a été bien expliqué par le frère Nourdine Al-Aouisset dans son livre qu'il a écrit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a bien démontré qu'en fait, Voltaire, il a écrit donc une pièce sur le fanatisme religieux, et pour contourner la censure, c'est-à-dire pour qu'on ne lui interdise pas de jouer cette pièce, c'est-à-dire les chrétiens, il était en France, pour pas qu'on l'empêche, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, c'est le fanatisme religieux, mais je vise par là que les musulmans. Mais lui, il a fait ça simplement pour pouvoir détourner la censure. Et le frère Nourdine Al-Aouisset, Hafidahullah, il a bien démontré dans son livre, en fait, que non, Voltaire, il connaissait vers la fin de sa vie, il a bien connu l'islam, il a écrit beaucoup de paroles en disant que l'islam était une grande religion et que Mohammed était un grand homme. Tayyib. Et bien évidemment, nous, en tant que musulmans, nous aimons le prophète, et si Allah nous dit que le prophète avait un comportement immense, alors bien évidemment, nous devons essayer de l'imiter en cela, et de nous inspirer du prophète et de nous éduquer pour avoir un comportement immense et un bon comportement. Et d'ailleurs, le comportement en islam, c'est quelque chose qui fait partie de la foi. Alors attention, il ne faut pas faire une différence entre, voilà, je suis à la mosquée, je prie, alhamdoulilah, je suis bien avec Allah, mais tout ce qui est à côté, mon comportement, ça c'est pas dans la religion. Non, le comportement, ça fait partie de la foi. D'accord ? Et d'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Hein? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique: les croyants qui ont la foi la plus complète, la plus parfaite, sont ceux qui ont un bon comportement. Donc on voit ici, dans ce hadith, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait rentrer le comportement dans la plénitude de la foi. À savoir que ce qui va différencier les croyants en degré, c'est ceux qui auront les meilleurs comportements. Car celui qui a une foi sincère, alors forcément elle va dans son cœur, elle va agir sur ses membres et sur ses actes, elle va faire de lui qu'il va devenir meilleur. Donc plus tu as une grande foi, plus tu vas devenir meilleur. Et donc plus tu as un meilleur comportement, forcément, plus tu atteins des hauts degrés. Et d'ailleurs, le comportement, lorsqu'on a demandé au prophète quelles sont les choses qui font le plus rentrer les gens au paradis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Aktharu ma yudkhilu an-nas al-jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith authentique, lorsqu'on lui a demandé quelles étaient les choses. Donc je disais, lorsqu'on a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quelles étaient les choses qui faisaient plus entrer les gens au paradis, le prophète a répondu: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. Le prophète a répondu, les choses qui font le plus entrer les gens au paradis, qui sont, dans une autre version, il a dit, qui sont le plus lourd dans la balance, يوم القيامة, sont la crainte d'Allah et le bon comportement. Donc on voit ici, hein, aussi l'importance du comportement et que ce n'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Et que parmi les grandes récompenses du bon comportement, c'est bien sûr le paradis. De plus, un autre hadith qui vient appuyer cela, c'est lorsque le prophète nous dit « Inna aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyamah ahsanuhum akhlaqa » Et le prophète nous dit « Ceux qui sont le plus proches de moi le jour du jugement dernier sont ceux qui ont le meilleur comportement. » Donc le jour du jugement dernier, là où bien sûr on sera content d'être proche du prophète A.S.A.W., de bénéficier de son intercession, du fait qu'il va demander à Allah qu'il nous pardonne, hein, bien sûr, et celui qui sera à côté du prophète le jour du jugement dernier, bien évidemment, c'est qu'il fera partie des gens du paradis. C'est qui? Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète? C'est ceux qui ont un bon comportement. Hein, les plus proches de moi le jour du jugement dernier sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Et parmi les bienfaits du comportement, et qui nous prouvent encore les hauts degrés de ceux qui s'éduquent à avoir un bon comportement, il y a le hadith dans lequel le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit « Inna rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im » Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans un hadith « L'homme atteindra par son bon comportement le degré de ceux qui jeûnent et prient la nuit. » Allahu Akbar. L'homme atteindra par son bon comportement le degré de qui? Le degré de celui qui jeûne toute l'année, pas tous les jours, mais qui régulièrement dans l'année il jeûne le lundi, le jeudi, il jeûne par exemple les 3 jours dans le mois, hein, c'est quelqu'un qui fait partie des jeûneurs, et de celui qui prie la nuit, qui se réveille et qui prie la nuit. Donc imaginez celui qui jeûne, déjà, les récompenses et la piété dont il fait preuve, qui jeûne tout au long de l'année, pas seulement pendant le ramadan, qui en plus, la même personne qui jeûne, elle fait partie de ceux qui prient la nuit, et on sait tous combien aussi difficile, et bien imaginez une personne, le prophète nous dit dans le hadith que par son bon comportement, il va atteindre le degré de ces gens-là. Allahu Akbar. Donc on voit bien ici que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Hein, et que le bon comportement, c'est quelque chose qui permet à l'homme d'atteindre des hauts degrés dans la foi. Alors, bien évidemment, le prophète, alayhi salatu wa salam, qui était un grand éducateur, hein, qui a éduqué ses compagnons, il les a éduqués. Et le fait, une chose qui nous prouve que le prophète, alayhi salatu wa salam, c'était quelqu'un qui était murabbi, qui était un grand éducateur, c'est que, bien évidemment, il a démontré c'était quoi le bon comportement. Et donc là, on va citer un certain nombre de hadiths pour montrer qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wa salam, entendait par le bon comportement. D'accord? Alors, dans un hadith, le prophète, il interpelle Abu Huraira et lui dit « Ya Abu Huraira, alayka bi husni al-khuluq. » Qala Abu Huraira radiyallahu anhu « Wa ma husni al-khuluq, ya Rasulallah. » Qala « Tassilu man qata'ak, wa ta'afu an man zalamak, wa tu'ti an man haramak. » Alors, le prophète, alayhi salatu wa salam, un jour, il interpella Abu Huraira, qui est un grand compagnon, et lui dit « Oh Abu Huraira, aie un bon comportement. »« Alayka bi husni al-khuluq. » Sa mère lui a dit, là c'est une exhortation, fais partie des gens qui ont un bon comportement. Et Abu Huraira, il lui a demandé « Qu'est-ce que le bon comportement au prophète ?» Sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit « C'est que tu tassil man qata'ak, à savoir que tu visites les membres de ta famille, que tu serres rahim, les gens qui ne te visitent pas. » Hein, la première sifa. La deuxième, c'est que tu pardonnes à celui qui a été injuste envers toi. Et la troisième, c'est que tu donnes, sois généreux envers celui qui n'est pas généreux envers toi. Donc on va les prendre un par un. Tu visites celui qui ne te visite pas. Et nous aujourd'hui, Asaf, c'est le contraire qu'on fait. Quand tu dis à quelqu'un, voilà, viens, on va visiter un tel. Ah ben j'ai déjà été 2 fois, lui, il ne vient jamais me voir. Subhanallah. Dans l'islam, entretenir les liens de parenté, c'est légiférer. C'est une obligation. Et le jour du jugement dernier, on te posera des questions sur ça. Et c'est une obligation. Et même celui qui serait converti à l'islam et qui aurait ses parents qui ne seraient pas musulmans, il est obligé d'entretenir des bonnes relations et de ne pas couper les liens et d'aller leur rendre visite. Donc on voit ce à quoi appelle l'islam. Et donc ici, on voit bien le bon comportement consiste à, si toi dans ta famille tu as une personne que tu vas visiter et elle ne te visite pas, alors tu ne dois pas dire, ah ben lui il fait du mal, il ne me visite pas, ben moi aussi je vais faire du mal. Lui il est dans le haram, moi aussi je vais faire dans le haram. Lui s'il ne vient pas te visiter, eh ben sache qu'il commet quelque chose de mal auprès d'Allah. Donc ne limite pas en cela, et toi va le visiter. Et si, et aujourd'hui les gens, ils vont visiter uniquement les gens qui les visitent. Subhanallah, ça c'est pas entretenir les liens de parenté. S'ils te visitent, les liens de parenté sont déjà établis. Entretenir les liens de parenté, les préserver, c'est justement aller voir les gens qui ne te visitent pas. Hein? Et donc on voit ici que le prophète, alayhi wasallam, il a encouragé en cela, d'accord? Deuxièmement, il a dit à Abu Huraira, donc le bon comportement c'est de pardonner à celui qui est injuste envers toi. Hein? Si quelqu'un il a été injuste envers toi, et bien alhamdoulilah, le musulman c'est quelqu'un qui est pardonneur. Bien sûr, si maintenant c'est une personne qui vole et qui, je ne sais pas, moi on va prendre l'exemple du commerce, c'est quelqu'un qui s'associe avec les gens, et à chaque fois qu'elle s'associe avec les gens, elle ment, elle triche, là, celui-là, il n'est pas question de pardon, il est une question au contraire d'avertir les gens, de dire attention, cette personne-là, c'est une personne malhonnête qui vole, etc., elle va chez les musulmans, elle s'associe avec eux, et elle leur prend leur argent. Non, nous on dit, on parle ici, le prophète, il parle de quelqu'un qui a commis une injustice, et on a tous des problèmes dans la vie où on se dispute avec un frère, ou des choses comme ça, ou un membre de sa famille, etc. Il faut être tolérant et être pardonneur. Quand les choses s'arrangent, des fois il y a des conflits, et les gens pendant 10 ans, il y a quelque chose dans le cœur. Hein? Ah, un jour, le jour il m'avait fait ça. Ah, le jour où je l'ai invité, il n'est pas venu, ça y est, je ne lui parle plus. Subhanallah. Hein? Donc le musulman, il n'est pas comme ça. Au contraire, le musulman, c'est le contraire. Il est quelqu'un qui essaie de pardonner, qui essaie d'être bon avec ses frères, et qui ne cherche pas le conflit à tout prix, et que lorsqu'il y a des malentendus, qui essaye de les dissiper. Et donc, la troisième recommandation du prophète dans ce hadith, c'est donc de donner à celui qui n'est pas généreux envers toi. Si un jour tu étais dans la difficulté et tu as demandé et quelqu'un n'a pas été généreux envers toi, alors si les choses s'inversent, toi, sois généreux envers lui. D'accord ? Et on voit là donc dans ces trois choses-là que le musulman il ne répond pas au mal par le mal. Hein ? Mais au contraire, le musulman il répond au mal par le bien. Et Inch'Allah, ses réponses par le bien amèneront le bien. Mais si au mal tu réponds par le mal, alors les choses vont rester telles quelles, ça n'évoluera jamais. D'accord ? Si quelqu'un vient et te dit salam alaykoum, il a le visage fermé, et bien toi dis-lui wa alaykoum salam avec le sourire. Et tu verras que la prochaine fois il te dira wa alaykoum salam avec le sourire. Alors, donc également parmi les choses que le prophète a inclus dans le bon comportement, il y a wa al-kalimatu tayyiba sadaqa. La bonne parole est une sadaqa. Et la sadaqa, ça fait partie de la générosité, ça fait partie du bon comportement. D'accord ? Donc les bonnes paroles, ça fait partie du bon comportement. Et le musulman, c'est quelqu'un qui prononce des bonnes paroles. Ce n'est pas quelqu'un qui insulte. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui fait de la médisance. Ce n'est pas quelqu'un qui parle comme ça pendant des heures et des heures de choses qui n'ont aucun intérêt. Hein ? Et les bonnes paroles, il y a une multitude de choses qui peuvent rentrer dedans. Le bon conseil, sincère. Hein? Le fait d'invoquer Allah, le fait de faire des du'as. Et combien aujourd'hui, par exemple, ils ont des enfants, dès qu'ils sont énervés, c'est des mauvaises paroles qui sortent de la bouche. J'ose même pas les répéter tellement j'ai honte, et tellement je trouve que c'est détestable. Et on sait tous, on connaît tous ça. Subhanallah. Et ça, c'est une éducation que le musulman doit avoir avec sa langue, de s'habituer à sortir des bonnes paroles. T'es énervé? Dis subhanallah. T'es surpris? Subhanallah. Ton fils t'a énervé? Dis-lui Allah Hidik. Et si vous faites ça, Inch'Allah, vos enfants, Allah il exaucera vos invocations. Et lorsque ton fils il fait quelque chose ou ta fille qui t'a énervé et que tu vas dire Allah il dit, regarde, tu lui demandes qu'Allah le guide. Et bien Inch'Allah, si Allah il exauce ton invocation, ton enfant il fera plus ces bêtises-là. Hein? Et au lieu de ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a des insultes. Et même dans le langage courant, c'est tellement rentré dans le langage courant qu'il y a même des gens, ils insultent la religion. Et j'ai même vu des gens, quand ils parlent aux enfants, ils s'insultent eux-mêmes. Il dit à son fils qu'Allah maudisse tes parents. Subhanallah. Hein? Donc c'est des choses graves. Et on voit ici que c'est tout le contraire que l'islam demande. Al-kalimatu tayyiba sadaqa. Donc habituez-vous à faire des sadaqat avec vos langues. Une autre chose qui fait partie du bon comportement, il y a la parole prophétique qui dit وَتَبَسُّمَكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةً. وَتَبَسُّمَكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةً. Donc le sourire, lorsque tu rencontres ton frère, que tu lui fais un sourire, c'est pareil, c'est une sadaqa. Et donc il faut s'habituer à sourire. Des fois, subhanallah, on rentre dans les mosquées, on voit les gens, ils ont des regards agressifs. Alors que nous, on vient à la mosquée pour prier avec nos frères. Hein? On est une communauté de frères et sœurs, et les gens, ils vous regardent, ont l'impression que c'est la guerre. Subhanallah. Non, mais c'est vrai. On est tous témoins de ça. Et ça fait partie de l'éducation du musulman. Hein? Et parfois, il y a des gens qui se convertissent à l'islam. Imaginez, ils se convertissent à l'islam, ils rentrent à la mosquée, ils voient les gens qui sont souriants, qui sont accueillants. Ça donne envie d'aller vers des gens comme ça. Mais si c'est tout le contraire, les gens, ils sont comme ça. Subhanallah. Donc ça fait partie aussi, regardez, si on médite bien, toutes ces choses qui font partie du bon comportement, qu'est-ce que ça amène? Ça amène l'amour entre les gens. Et ça amène le fait que les gens, ils ont plaisir à se retrouver. Hein? Et ça amène aussi, pour les gens qui seraient extérieurs à l'islam, de voir les musulmans, ils vont dire, les musulmans, machallah, ils sont gentils entre eux, ils sont souris, ils sont doux, ils se pardonnent. Hein? Donc regardez tout le bien que ça amène, ces choses-là. Et donc, je vais citer un autre hadith concernant le comportement dans lequel le prophète, alayhi wassalam, il a englobé beaucoup de choses. Ça va résumer un peu ce qu'on a dit. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله عز وجل السرور تدخله على المسلم أو تكشف عنه كربات أو تقضي دينا أو تطرد عنه جوعا ولئن أمشي مع أخي مسلم مع أخي المسلم في حجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجد شهرا. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام il dit, les gens les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui sont les plus profitables pour les autres. Les gens qui sont les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui sont les plus profitables pour les gens. Et les actes les plus aimés auprès d'Allah sont les actes par lesquels tu fais entrer la joie chez le musulman. Ou c'est lorsque tu enlèves une tristesse à quelqu'un. Quelqu'un est triste et toi, tu l'as réconforté. Ou c'est que quelqu'un avait une dette et que toi, tu l'as aidé à payer sa dette. Ou quelqu'un avait faim et tu l'as nourri. Ou le prophète termine en disant, il m'est préférable d'accompagner mon frère musulman et de l'assister lorsqu'il est dans une difficulté que de me retirer, c'est-à-dire de faire l'i'tikaf, c'est-à-dire de faire une retraite spirituelle dans la mosquée pendant un mois. Donc je répète le hadith dans lequel le prophète dit, les gens les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui sont les plus profitables pour les gens. Ça veut dire que c'est quelqu'un, pour les gens, c'est un bien, il aide les gens. D'accord ? Quand il parle, c'est des bons conseils, c'est des bonnes paroles, c'est des du'as. Hein? Et lorsque les gens sont dans la difficulté, il est le premier à les aider. D'accord ? Donc, les gens les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui sont profitables pour les gens. Et regardez là ici, profitable pour les gens. Bien sûr, quelqu'un qui aurait appris la science et qui va apprendre la science utile aux gens, il rentre dans ces choses-là. Mais ce n'est pas celui qui fait beaucoup de prières qui est le plus aimé auprès d'Allah. Hein? Pourquoi? Parce que celui qui fait beaucoup de prières, c'est une bonne, très bonne chose, mais il va se ramener du bien pour lui. Alors que celui qui va être profitable aux gens, non seulement il est profitable à lui-même, mais il est aussi profitable pour les gens. D'où le fait qu'Allah l'a mis au-dessus de celui qui ferait beaucoup d'adoration à titre personnel. Donc, les gens les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui sont les plus profitables pour les autres. Et les actes les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui font rentrer la joie dans le cœur du musulman. Lorsque tu fais quelque chose qui fait rentrer la joie dans le cœur du musulman, c'est les actes qu'Allah il préfère. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit lorsque tu enlèves la tristesse. Donc ça rentre dans ça. Lorsque quelqu'un il était triste, et toi, tu l'as réconforté, ou tu lui as dit ne t'inquiète pas, ou tu lui as dit je vais t'aider, on va trouver une solution, etc., et que tu lui as enlevé cette tristesse-là, alors ça fait partie des actes qu'il faut rentrer de la tristesse, tu lui as enlevé, tu lui as mis le réconfort et la joie. Donc ça rentre dans cet acte-là. Ou Il avait des dettes, il était donc triste, et tu lui as dit, il n'y a pas de problème, je vais la payer ta dette. Et donc tu lui as mis de la joie dans son cœur, n'est-ce pas? Et ensuite, il avait faim, tu l'as nourri. Hein? Il avait une difficulté, tu l'as nourri. Quand quelqu'un a faim et qu'il trouve à manger, il est heureux. Donc par cet acte-là, tu lui as mis de la joie dans son cœur. Et le prophète nous dit, il m'est préférable d'être avec mon frère, c'est-à-dire de marcher avec mon frère, d'assister mon frère qui est dans une difficulté, et de le soutenir, plutôt que de me retirer un mois en i'tikaf, en retraite spirituelle à la mosquée. Et justement, à ce sujet-là, il y a un récit de Ibn Abbas qui faisait l'i'tikaf à la mosquée. Et lorsqu'il faisait l'i'tikaf à la mosquée, donc l'i'tikaf, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de rester à la mosquée, de n'en sortir qu'en stricte nécessité, en cas de stricte nécessité, et de multiplier les prières, les invocations, la lecture du Coran, les qiyam al-lil, etc., etc. Chose qui se fait notamment pendant le Ramadan, les 10 derniers jours du Ramadan. Et donc, Ibn Abbas faisait l'i'tikaf, et il a vu un compagnon qu'il connaissait, et il l'a vu dans son visage qu'il était triste, et qu'il était soucieux. Et donc il est parti le voir, et il lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit, j'ai des dettes à payer à Foulen et à Hélène, à deux personnes, mais je ne suis pas en mesure de les payer. Et Ibn Abbas, il a dit, moi ces gens-là, je les connais très bien. Est-ce que tu veux que j'aille les voir pour toi, pour qu'ils te repoussent la date de paiement? Et la personne qui avait ses dettes à payer a dit, oui, je veux bien. Et donc Ibn Abbas, alors qu'il était en i'tikaf, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interrompu son i'tikaf, il s'est habillé, il s'apprêtait à sortir. Et là, les gens qui étaient avec lui en i'tikaf, ils lui ont dit, oh, Ibn Abbas, où tu vas? Tu ne fais pas l'i'tikaf. Et il leur a dit, j'ai entendu le prophète, et donc il était à la mosquée de Médine, il a dit, j'ai entendu le prophète, il a montré la tombe du prophète, et il a dit dire qu'il préférait assister son frère lorsqu'il avait une difficulté, plutôt que de faire l'i'tikaf pendant un mois. Et donc il est sorti. Donc regardez non seulement les compagnons comment les paroles du prophète, ils les ont mis en application. Hein? Donc lui, sur le champ, il a vu son frère qui était en difficulté, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il l'a aidé. Il n'a pas hésité une seconde. Donc, par rapport à ce comportement, il y a un point qui est important à comprendre. C'est qu'effectivement, nous, là, ce qu'on a cité, beaucoup de choses. La bonne parole, le sourire, hein, le fait de donner, d'être généreux, et tous ces comportements-là qui sont des choses qui sont visibles. Mais le comportement, à l'origine, il se trouve dans un endroit, chez l'être humain, qui est le cœur. Lorsque la personne, son cœur, il est animé de ce bon comportement, alors tout ce qui va en découler vont être des actes bons. Et le prophète nous dit dans le hadith que nous connaissons tous, « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. » Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Alors on voit bien que vouloir le bien pour son frère, et donc bien se comporter envers lui, qu'est-ce que c'est? C'est une chose qui va te donner une foi complète. Et le contraire, c'est quelque chose qui fait diminuer la foi, voire qui peut aller jusqu'à ne pas en laisser grand-chose. Hein, celui qui voudrait le mal pour les musulmans, c'est connu. Si tu souhaites le mal pour un musulman, tu te réjouis de son égarement. Donc, je disais, si une personne se réjouit du mal de deux, ça peut aller jusqu'au kufr. On voit bien que c'est quelque chose de grave. Et donc, vouloir le bien, pour les gens, c'est une conséquence qui va amener l'amour entre les gens. Et donc, s'ils s'aiment, ils vont bien se comporter. Et donc, nous voyons à travers ce hadith que la base du bon comportement, elle se trouve où? Elle se trouve dans le cœur de la personne. D'accord? Le bon comportement, avant tout, c'est quelque chose que la personne a dans son cœur. Et c'est pour ça qu'elle va être généreuse, qu'elle va être souriante avec ses frères, qu'elle va être patiente, qu'elle va leur pardonner. Que lorsque la personne de sa famille ne vient pas visiter, lui, il va entretenir les liens de parenté. Parce que dans son cœur, il est animé de ce bon comportement. Alors, afin de donner des exemples de ce bon comportement, je voudrais vous parler d'un compagnon du prophète, radiallahu anhu. Et pourquoi les compagnons? Car les compagnons, c'est des exemples pour nous. Et les compagnons, comme les savants ont dit, ce sont les étoiles de la religion. Alors pour comprendre cette parole, le fait que les compagnons sont les étoiles de la religion, il faut savoir pourquoi Allah il a créé les étoiles. Est-ce que vous savez pourquoi Allah il a créé les étoiles?
وبالنجم يهتدون. Et par les étoiles, ils se guident. Donc il y a une raison. Une autre raison encore de la création des étoiles. Pour embellir le ciel.
إِنَّ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ. Hein, nous avons embelli le ciel par les étoiles. Et la troisième, il y a une autre raison encore. وَحِفْدًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. Et comme protection de tout diable rebelle. À savoir que les étoiles filantes que nous voyons, lorsque les diables ils montent au premier ciel pour écouter les anges qui parlent de ce qu'Allah a décrété vis-à-vis de nous, Allah il envoie une étoile filante pour les chasser. Donc il y a trois raisons à la création. Allah dans le Coran, il donne trois raisons de la création des étoiles. Hein? Embellir le ciel, guider les gens et repousser les diables. Et les savants ont dit que les compagnons c'était les étoiles de la religion. Pourquoi? Parce que les compagnons, si on les suit, ils vont être des guides pour nous. Comme les étoiles nous guident, les compagnons, ils vont être des guides pour nous. Et les suivre est une obligation religieuse. Comprendre le Coran comme ils ont compris le Coran, adorer Allah comme ils ont adoré Allah, c'est une obligation pour les musulmans. C'est eux qui nous ont transmis le Coran et la Sunna, donc les compagnons sont des guides pour nous. L'embellissement du ciel, les étoiles ont embelli le ciel, et les compagnons, de par les hauts degrés qu'ils ont eus, les bons comportements qu'ils ont eus, ils vont embellir la religion à nos yeux. La religion, elle est belle, mais si elle est pratiquée par des gens qui ne la pratiquent pas correctement, on ne verra pas la beauté de la religion. Mais à travers le comportement des compagnons, ils ont été des exemples vivants de la beauté de l'islam. Et la troisième, le fait de repousser les diables, les ruses du diable, c'est d'égarer les gens par le polythéisme et l'innovation. Et si nous suivons les compagnons, alors nous serons préservés du polythéisme et de l'innovation, et donc nous aurons repoussé les ruses du diable. Donc c'est pour cela que les savants ont dit que les compagnons du prophète étaient les étoiles de la religion. Et donc moi j'ai choisi un compagnon, et je voudrais vous parler un peu de sa vie, et j'espère qu'Inch'Allah ce sera profitable pour nous tous. Le compagnon dont je voudrais vous parler s'appelle Bilal ibn Rabah, Bilal al-Habashi, que nous connaissons tous, qui était un homme, c'était un métis. Son père était un arabe, esclave, et sa mère était une noire d'Abyssinie, issue d'une famille noble. Mais suite à un conflit, à une guerre, elle a été asservie à l'esclavage par une tribu arabe. Elle s'est donc retrouvée avec Rabah, qui est donc le père de Bilal, et elle s'est mariée avec lui. Et donc, Bilal est donc d'un père arabe et d'une femme noire. Et lui était noir de peau, Bilal. Il est né à peu près, suivant les historiens, quelques divergences, mais 43 ans avant le Hijra. C'est-à-dire lorsque le prophète Mohammed et ses compagnons ont fait l'immigration de la Mecque vers Médine, Bilal avait 43 ans. Alors, donc, lorsque le père de Bilal mourut, Bilal, il va occuper la place de son père, à savoir qu'il va être le responsable du temple des idoles de la tribu. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, à l'époque, chez les Arabes, ils avaient les Arabes polythéistes, avant l'arrivée de l'islam, ils avaient donc des idoles, et ils avaient un temple dans lequel ils les préservaient, et on mettait, comme c'était quelque chose qui était important pour eux, les idoles, on mettait un esclave digne de confiance. Et donc Bilal, s'il a été choisi, c'est parce que son père était digne de confiance, et ils avaient aussi confiance en Bilal. Donc déjà on voit chez cet homme-là que c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter et que c'était quelqu'un de confiance. Il est dit de lui que la société dans laquelle il vivait à l'époque, où il y avait beaucoup de fornication, il y avait l'alcool, il y avait les jeux de hasard, les gens, c'était la loi du plus fort, le fort écrasait le faible, Bilal n'adhérait pas à ça, et il est dit qu'il trouvait tout cela injuste. Et bien évidemment, lorsqu'il a vu le prophète salam, avec Ali prier à la Mecque, à côté de la Kaaba, le prophète venait prier la nuit, quand il l'a vu prier et qu'il a entendu que donc cet homme, qu'il connaissait déjà avant, comme étant Sadiq al-Amin, le digne de confiance, appelé à n'adorer qu'un seul Dieu, Et il appelait à ce que les maîtres respectent leurs esclaves, on donne des droits aux femmes, aux enfants, que le fort n'exploite pas le faible. Alors, son cœur, il s'est naturellement ouvert à ce message et il a embrassé l'islam. Il est parti voir le prophète, il lui a embrassé sa main et il lui a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Alors, Bilal, il fait partie des gens qui sont... il fait partie des gens à qui le prophète a annoncé le paradis. Et il fait partie des 7 premières personnes qui se sont converties à l'islam. Et parmi ces 7 personnes, il fait partie des rares qui l'ont clamé ouvertement. Alors qu'il aurait pu cacher son islam, car d'autres esclaves à son époque étaient musulmans, mais ils l'ont caché. Lui, il ne l'a pas caché. Et un jour, il est parti voir son maître, Umayya ibn Khalaf, et il lui a dit, moi, j'atteste, son maître est venu le voir, il lui a dit, il paraît que tu as changé de religion et que tu professes la religion de Mohammed. Il lui a dit, oui. Il lui a dit, je suis celui qui te possède, et est-ce que tu vas demander mon avis? Moi, je t'interdis de professer la religion de Mohammed. Il lui a dit, certes, tu me possèdes, mais tu ne possèdes pas mon cœur. Et moi, je crois en un Dieu unique. Et jamais je ne renoncerai à cela. Et donc, bien évidemment, le maître, Umayya ibn Khalaf, ça en fait des micros là. Et donc le maître Umayya ibn Khalaf, pardon. Et donc le maître de Bilal, Umayya ibn Khalaf, il va, car vous savez qu'à l'époque les Arabes ils étaient orgueilleux, hein, ils n'acceptaient pas qu'on leur tienne tête. Alors l'esclave qui tient tête au maître, c'était inconcevable. Et donc Umayya ibn Khalaf, qui était une personne dure, il va commencer à lui dire, ah bon, tu veux me tenir tête? Alors il va commencer à le torturer. Et les tortures, elles vont durer longtemps. Et tellement il va le torturer avec acharnement que les gens, dans la Mecque, tout le monde va parler que de ça. Et tout le monde va savoir qu'il y a un homme qui se fait torturer parce qu'il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qui tient tête avec beaucoup de courage. Et les gens, même qui n'étaient pas musulmans, ils vont commencer à prendre Bilal en sympathie et vont dire, ah, mashallah, cet homme, il a du courage. Hein? Ils vont avoir de l'estime pour lui, pour son courage et son abnégation. Et donc, il va y avoir plusieurs tortures. Il va l'attacher, il va le jeter aux enfants qui vont lui jeter des cailloux, qui vont le frapper, il va le jeter à des gens qui vont le traîner dans toute la Mecque. Il va avoir beaucoup d'humiliation et beaucoup de souffrance. Mais voyant que les gens commencent à s'intéresser au cas de Bilal et que Bilal ne renonçait pas, Umayya ibn Khalaf, il va avoir une idée terrible. Il va lui dire, maintenant, tu as 2 choix. Soit tu renonces à ta religion, ou soit je vais te torturer jusqu'à ce que tu perds la vie. Donc regardez, c'est terrible. Et donc il va l'amener dehors en plein soleil, il va lui mettre un rocher sur lui et il va le fouetter. Et Bilal, il était à l'agonie, mais dès qu'il a retrouvé un peu ses esprits, qu'est-ce qu'il disait? Ahad, un seul Dieu. Et donc, il va se passer une chose, il va se passer que le prophète, alayhi salam, bien évidemment, il va avoir de la tristesse pour Bilal et il va chercher une solution. Et donc il va avoir l'idée de dire, pourquoi ne pas essayer de le racheter? Moi je suis même prêt à en payer une partie, car le prophète n'était pas quelqu'un de riche. Et là Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il va aller voir Umayya ibn Khalaf et il va négocier avec lui, il va dire, moi je te donne un esclave plus robuste que Bilal et je te l'achète, laisse-le partir. Et là Umayya ibn Khalaf va lui dire, moi je te le vends pour 9 pièces d'or, ou 9 pièces d'argent, je ne sais plus. Mais le moyen, ce qui est important, c'est que le prix de 9 pièces d'argent pour un esclave à l'époque, c'était un prix que les gens ne payaient pas. C'était très très cher. Et là, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il va sortir les 9 pièces d'or, il va les payer sans discuter. Et Umayya ibn Khalaf, ce croyant intelligent, va lui dire, en rigolant, pour se moquer de lui, si tu avais négocié et que tu m'avais dit une pièce d'or, je te l'aurais vendu. Pour dire, genre, je t'ai bien eu. Et Abu Bakr Siddiq va lui répondre, Wallahi, si tu m'avais demandé 100 pièces d'or, je te les aurais données. Allahu Akbar. Et donc, Bilal, il va se retrouver affranchi de l'esclavage. Donc on peut méditer sur les versets, différents versets coraniques. Certes, après la Innama al-usri yusra, certes après la difficulté vers la facilité. Hein, il était esclave, il a enduré, et qu'est-ce qu'il a eu? Allah, il lui a donné la réussite, il lui a donné la victoire, il va se retrouver libre. Et en plus, comme il était blessé, il va se retrouver que c'est le prophète qui va s'occuper de lui comme une mère s'occupe de son enfant. Et donc dès le début, entre le prophète et Bilal, il va y avoir beaucoup d'affection et beaucoup d'amour. Ensuite, donc Bilal va devenir un homme libre, il va faire l'immigration, donc il va être parmi les Mouhajirines, il va faire la bataille de Badr. Donc regardez les hauts rangs qu'a eu cet homme. De l'esclavage, il est passé à quelqu'un qui a fait le djihad, qui était à Badr, quelqu'un qui a fait la hijra avec le prophète. Hein. Et jusqu'à ce que Allah va faire en sorte que pendant la bataille de Badr, il va se retrouver face à Umayya ibn Khalaf et qui va donc le tuer. Donc je m'arrête juste là pour essayer de vous amener à réfléchir sur ce que je viens de dire et en tirer quelques profits. Qu'on voit donc chez Bilal un comportement, notamment le comportement envers Allah. Il a eu un très bon comportement envers Allah qui est qu'il a eu la certitude, il a eu yaqin. Il a eu une force de caractère qui était articulée autour du yaqin. Il a dit, il n'y a qu'un seul Dieu, je vais l'attester haut et fort. Il aurait pu ne pas le dire et se cacher, il n'aurait pas été puni pour ça. Mais non, il a voulu l'affirmer et il avait la certitude que Allah ne le laisserait pas tomber. Et donc ce yaqin, cette certitude forte, donc ce bon comportement envers Allah qu'il a eu dans son cœur, le fait qu'il a été certain que Allah et Allah seul pouvait le sortir de cette situation et qu'il lui fallait juste avoir pleine confiance en Allah. Donc cette certitude lui a permis de faire preuve de beaucoup de patience, hein, regarder tout ce qu'il a enduré, et de placer sa confiance en Allah. Et donc là, il y a un enseignement pour nous. Des fois, le destin fait qu'on a des difficultés dans nos vies. Donc lorsqu'on a des difficultés dans nos vies, c'est là où il faut encore plus rentrer dans l'adoration d'Allah, et il faut plus s'en remettre à lui, avec un bon comportement, à savoir avec la certitude que Allah Azzawajal, il a la capacité, c'est très simple pour lui, très facile pour lui, de nous sortir de cette situation. À titre d'exemple, si tu perds ton travail, d'accord, eh bien, ne t'affole pas, place ta confiance en Allah, et sois sûr qu'Allah est capable de trouver un autre travail mieux. Donc là, il y a un grand enseignement pour nous. Et il y a aussi un grand enseignement, c'est que parfois, tu peux détester une chose, alors qu'elle va être source d'un grand bien pour toi. C'est parce que Bilal a été torturé qu'il a été affranchi de l'esclavage. Hein? S'il avait caché sa foi, Bilal, il n'avait pas, il n'aurait pas été torturé. S'il n'aurait pas été torturé, les musulmans n'auraient pas cherché à lui racheter sa liberté. Donc le fait qu'il a été torturé, qu'il a patienté, ça a été source d'un grand bien pour lui. Et Allah nous dit encore, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Alors je poursuis, donc parmi les choses qui sont très connues de Bilal, il y a le fait que ça va être le Mouaddin. Hein, lorsqu'ils sont arrivés à Médine, les compagnons du prophète, ils étaient amis, ils ont construit la mosquée, ils se sont commencés à se poser la question de savoir comment ils allaient appeler les gens à l'islam. Et là, il y a deux compagnons qui ont fait un rêve et qui ont vu qu'il y avait quelqu'un qui disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shadu Allah, Ilaha Illallah, etc. Ils en ont fait référence au prophète. Ils ont dit, voilà, nous on est arrivé de ça. Et le prophète l'a accepté. Hein? Et c'est important le fait que le prophète l'a accepté, car si le prophète ne l'avait pas accepté, les rêves, ce n'est pas une source à travers laquelle on va légiférer dans la religion. Mais là seulement, ils étaient en présence du prophète, et le prophète, il a accepté leur rêve, et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on suit cela, car ça a été légiféré par le prophète. D'accord ? Et donc, regardez les grands mérites, lorsqu'il va s'agir de choisir quelqu'un pour faire cet appel à la prière, alors, qui va-t-on choisir ? Le prophète, alayhi salam, lui-même va choisir Bilal. Il va dire au Bilal, tu as une douce voix, fais l'adhan. Jusqu'à ce qu'il ait connu que le prophète, il disait à Bilal, au Bilal, repose-nous par elle, par la prière, à savoir, fais l'appel à la prière, on va entendre ta voix, puis après on va faire la prière, ça va apaiser nos cœurs. Et aussi, lorsque les musulmans vont prendre la Mecque, et que le prophète Hassan va rentrer dans la Kaaba, Bilal va rentrer avec lui. Il sera le seul compagnon à rentrer avec lui. Et ensuite, le prophète Hassan va ordonner à Bilal de monter au-dessus de la Kaaba et d'appeler les gens à la prière. Et ce jour-là, Omar ibn al-Khattab va dire « Sayyiduna Abu Bakr a'taqa Sayyiduna Bilal hein, ». Ce jour-là, Omar ibn al-Khattab va dire « Notre maître Abu Bakr a libéré, a affranchi notre maître Bilal. » Regardez cette grande parole. le deuxième calife de l'islam, regardez le témoignage qu'il a envers un homme qui n'était un esclave, et regardez le respect qu'il a pour lui. Aussi, Bilal, parmi ses mérites, c'est le fait que lorsqu'il était à Médine, des gens sont venus voir le prophète et ils voulaient marier leur fille. Et le prophète, il leur a dit, il y a Bilal. Et les gens ne vont pas être, comme on dirait à notre époque, ils ne vont pas être très chauds. Ils vont partir. Ils vont revenir une deuxième fois. Et une deuxième fois, le prophète va leur dire, il y a Bilal. Ils ne vont pas être très chauds, ils vont partir. Ils vont revenir une troisième fois. Ils vont dire, tu ne connais pas quelqu'un pour marier notre fille. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va leur dire, Bilal fait partie des gens du paradis. Et donc, ils vont marier leur fille à Bilal. Et donc on voit que c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a lui-même recommandé Bilal. Et quelle a été sa recommandation? C'est qu'il a dit qu'il faisait partie des gens du paradis. Alors, une autre histoire pour montrer le comportement de Bilal. Et là, il y a une histoire qui est connue. Un jour, Bilal a eu un accrochage, une altercation avec un compagnon qui s'appelle Abu Dhar al-Rifari. Et ce compagnon, lorsqu'il va se disputer avec Bilal, il va s'emporter, il va lui dire « Ô toi, fils de la noire !» Et là, Bilal, il va aller voir le prophète. Mais j'ouvre une parenthèse, le fait que Bilal est parti voir le prophète, c'est pas pour régler un conflit personnel. C'est parce que la parole que la personne a dite, elle n'est pas une parole qui est acceptable dans l'islam. Dans l'islam, il n'y a pas de racisme. On ne va pas dénigrer quelqu'un parce qu'il est blanc ou jaune, noir, ou parce qu'il a les cheveux blonds, ou les yeux bleus, ou je ne sais quoi encore. D'accord? Mais il va aller le voir en appliquant la parole du prophète qui dit « Secours ton frère, qu'il soit opprimé ou injuste. » Et les compagnons nous ont dit, lorsque le prophète nous a dit de secourir celui qui est opprimé, ça c'était clair. Mais lorsqu'il nous a dit de secourir notre frère qui est injuste, comment est-ce possible? Et le prophète a dit, secourir la personne qui est injuste, c'est l'empêcher de commettre cette injustice. En lui disant, taqlillah, ce que tu fais c'est haram. En lui disant, ne fais pas ça, en lui donnant un conseil. D'accord? Donc là, cette personne-là, en disant, ô toi fils de la noire, il était injuste. Et Bilal, en allant voir le prophète et en se plaignant de cela, c'est une manière de l'empêcher de commettre cette injustice. Et donc, lorsque le prophète va apprendre que Abu Dhar al-Rifari a dit à Bilal, ô toi fils de la noire, il va appeler Abu Dhar al-Rifari. Il va lui dire, est-ce que c'est vrai que tu as dit ça? Il va lui dire oui. Il va lui dire quelque chose qui est terrible. Il va dire, il ne fait qu'umur al-Jahiliya. Il lui a dit, tu as des traces de l'al-Jahiliya. Et l'al-Jahiliya, en fait, c'est la période avant l'islam, quand les gens étaient dans l'ignorance, quand ils enterraient leur fille vivante. Et donc, pour un musulman qui avait connu la révélation et la lumière de l'islam, il n'y avait rien de pire de lui dire que finalement, il n'avait que très peu profité de l'islam et qu'il y avait encore en lui ces choses de l'ignorance. Et donc, lorsque le prophète va dire ça à Abu Dhar al-Rifari, alors, bien évidemment, il va se rendre compte que ce qu'il a fait, ce n'était pas une bonne chose. Et regardez qu'est-ce qu'il va faire. Il va aller voir Bilal, il va aller mettre son visage par terre, il va lui dire, Wallah, je ne me lèverai pas jusqu'à ce que Bilal il marche sur le visage. Hein, parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il a fait, c'est pas bien, et donc il a voulu se nettoyer, il a voulu purifier son cœur, il a voulu se rabaisser, hein, pour se nettoyer de ce qu'il avait fait, nettoyer de l'injustice qu'il avait fait. Et vous savez ce qu'il va dire Bilal? Il va dire, Wallah, jamais je marcherai sur le visage de quelqu'un qui se prosterne pour Allah. Donc, là ici, à travers ce que je viens de dire, on est en plein dans le bon comportement. Hein? Regardez comment Omar, par exemple, il parle de quelqu'un qui était esclave. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de mépris. Hein? Il y a de l'amour et du respect. Et il n'y a pas ces histoires de racisme. Et nous, au jour d'aujourd'hui, où on nous bassine avec les droits de l'homme, on nous parle des droits de l'homme, alors que, ou encore aujourd'hui dans notre société, si tu es noir, ou si tu es basané, tu n'es pas comme tout le monde. La preuve en est, il faut qu'en 2005, il y ait plein de voitures qui brûlent pour qu'on commence à nous mettre un présentateur du journal de télévision noir. Hein, il a fallu qu'il y ait je ne sais pas combien de voitures qui brûlent en 2005, qu'il y ait des émeutes, pour qu'on se dise, ah, attends, il faut que peut-être on soit plus représentatif. Alors regardez l'islam, qu'on taxe souvent de religion arriériste, En fait, l'islam, il est précurseur avant-gardiste. Il y a 14 siècles déjà, le prophète, alayhi salam, il a montré l'exemple. À savoir qu'il n'y a pas de différence de couleur de peau, mais ce qui fait la valeur des hommes, c'est leur foi et leur bon comportement. Et c'est leur crainte d'Allah. D'accord? Donc regardez, au jour d'aujourd'hui, quand on veut critiquer l'islam, on dit non, mais l'islam ne respecte pas les droits de l'homme. Non, l'islam, il y a 14 siècles déjà. Alors que dans les années 60, aux États-Unis, un noir ne pouvait pas rentrer dans un tel café, ou ne pouvait pas rentrer dans un bus, ou des choses comme ça, et qu'il n'y a que maintenant que ça commence un petit peu déjà à changer. Dans les années 60, c'était comme ça aux États-Unis. Et bien regardez-nous, dans l'islam, il y a 14 siècles, le prophète, alayhi wasallam, il a nettoyé les gens de ce racisme-là. Hein? Même si c'est vrai que nous, au jour d'aujourd'hui, ma'al-asaf, il y a des gens qui ont encore ce racisme-là, ou ce nationalisme, ou ce sectarisme. Mais sachez, mes chers frères, que l'islam est innocent de cela. Et donc, il y a une grande preuve dans cela que nous, les musulmans, on doit apprendre notre religion et être fiers de notre religion. Et que si on tape sur notre religion, souvent comme ça tous les jours, c'est injustifié. Et celui qui apprend sa religion, il verra que dans la religion musulmane, elle est là la vérité. Et elle n'est pas dans les droits de l'homme. Elle est dans l'islam. C'est l'islam qui garantit les droits à l'être humain. Et l'islam, il a donné des droits à chacun. Donc aussi, par rapport au comportement, ce qu'on peut voir, c'est que, donc, Bilal, qui était quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de force et de beaucoup de courage, hein, et qui a fait preuve d'une force de caractère, lorsque quelqu'un était injuste envers lui, s'en est plus en prophète, mais lorsque la personne s'est repentie, il l'a pardonné. Il a fait preuve de douceur et de miséricorde envers lui. Hein. Donc quelqu'un qui est une force de caractère, ça ne veut pas dire qu'il ne pardonne pas, au contraire. Ça veut dire qu'il est pardonneur et miséricordieux. Regardez Bilal qui a enduré des tortures lorsqu'il a eu un conflit avec un compagnon, et que ce compagnon s'est rendu compte de son erreur, il lui a pardonné. Il a eu une belle parole. Il lui a dit, Wallah, jamais je marcherai sur le visage de quelqu'un qui se prosterne pour Allah. C'est une belle parole. Et donc on voit aussi qu'entre les compagnons, j'ai oublié de citer Non, je ne les ai pas oubliés, ça vient après. Donc je poursuis. Alors par la suite, ce qui va se passer, va avoir un événement tragique, c'est que le prophète, alayhi salam, va mourir. Et les compagnons qui aimaient beaucoup le prophète, eux-mêmes disent que la vie, lorsque le prophète était en vie, leur vie qu'ils ont eue avec le prophète, et la vie qu'ils ont eue après la mort du prophète, elle n'a jamais été la même. Hein, il disait qu'il y avait une espèce de douceur dans leur cœur lorsque le prophète était en vie, et que lorsque le prophète est mort, il y a toujours eu un peu de cette tristesse, parce que c'était des gens qui aimaient beaucoup le prophète, alayhi salam. Et donc lorsque le prophète, alayhi salam, va mourir, Bilal, il va rentrer dans une profonde tristesse. Il va être très triste au point que lorsqu'il va vouloir faire la dan, et qu'il va arriver à la partie où il doit dire « Ashhadu anna Muhammad Rasulullah », il ne va pas y arriver, et il va pleurer. Et pendant 3 jours comme ça, lorsqu'il fera la dan, il n'arrivera pas à dire Ashhadu Muhammad Rasulullah, jusqu'au point qu'il va aller voir Abu Bakr Siddiq et qu'il va lui dire, moi ça y est, je ne peux plus faire la dan, je vais partir. Et Abu Bakr va lui dire, non, reste. Il lui dit, non, vraiment je veux partir. Et là, Abu Bakr a insisté pour qu'il reste. Et puis là, il va lui dire, si tu m'as libéré pour Allah, laisse-moi partir. Et si tu m'as libéré pour toi, alors je resterai. Et Abu Bakr, qui était donc le calife, lui a dit, non, je t'ai libéré, Wallah, si je t'ai libéré, c'est pour la satisfaction d'Allah. Pars, libre à toi de faire ce que tu veux. Et donc Bilal, il va partir, et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va s'engager dans l'armée qui va être dirigée par Omar ibn Khattab, qui va partir à la conquête de l'Quds, de Jérusalem. Et donc les musulmans vont prendre Jérusalem, et lorsque les musulmans vont prendre Jérusalem, Omar ibn Khattab, donc, qui était l'émir, qui était le responsable du convoi, va dire à Bilal, fais la dan. Et Bilal va dire, non, moi ça y est, je ne fais plus la dan. Et Omar ibn Khattab va lui dire, aujourd'hui nous avons repris un des lieux saints de l'islam, et c'est un jour où les musulmans sont joyeux. Alors, fais la dan, car le prophète est joyeux aujourd'hui. Et par ces mots, il va convaincre Bilal qu'il va faire la dan. Et il est dit dans le récit que tout le monde va pleurer tellement la dan était magnifique. Donc ensuite, Bilal, il va s'exiler en Syrie, où il va passer ses derniers jours. Mais avant, il va faire un rêve dans lequel le prophète lui aurait demandé de venir à Médine. Et donc, il va entreprendre un voyage à Médine. Il va visiter la famille du prophète. Il va visiter le Hassan et le Hussein.
Et donc, il va retourner dans le lieu où il a vécu avec le prophète. Et il va repartir apaisé en Syrie. Et peu de temps après, il va mourir. Et lorsqu'il va mourir, sa femme, elle va être catastrophée. Elle va courir, attention, Bilal, elle va mourir. Et lui, il va dire à sa femme, pourquoi tu cries comme ça? Aujourd'hui, c'est un bon jour pour moi, car je vais aller retrouver ceux que j'aime. Et donc, il va mourir. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, justement, c'est par rapport aux deux récits, à la fois avec Abu Bakr et Bilal, et Omar et Bilal, le comportement des compagnons entre eux. Regardez, lorsque Abu Bakr, il a demandé à Bilal de rester, c'était le calife. Il aurait pu lui donner l'ordre de rester, il aurait dû rester. Lorsqu'il a vu que c'était une charge lourde pour Bilal, et qu'il avait de la tristesse dans son cœur, il lui a laissé le choix de faire ce qu'il voulait. Donc il y a eu de la miséricorde dans ce comportement-là. Alors que c'était le chef des musulmans, Bilal. Parole pareil pour Omar. Regardez, lorsqu'il a demandé à Bilal de faire la dalle, et qu'il lui a dit non, il lui a pas dit, moi je suis le chef, ce que je te dis, tu dois le faire. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a trouvé, avec intelligence, finesse et sagesse, des mots pour réussir à le faire changer d'avis. Il lui a dit, aujourd'hui, nous avons pris un des lieux saints de l'islam, c'est un jour joyeux pour les musulmans. Et par là, il a réussi à le convaincre. Donc on voit comment les compagnons, ils étaient entre eux. Où il y avait de la miséricorde, hein, il y avait du pardon, etc., etc. Ce qu'on peut voir aussi, c'est donc le bon comportement avec le prophète. Les gens, ils aimaient profondément le prophète. Et ils aimaient beaucoup le prophète. Et ils aimaient le prophète comme il se doit, à savoir qu'ils l'aimaient plus qu'eux-mêmes. Et il y a aussi, parmi les grands bienfaits, le fait que les compagnons, ils avaient un bon comportement par rapport à cette dunya, dans la mesure où ce n'étaient pas des gens qui recherchaient de dunya. Ce n'étaient pas des gens qui étaient amoureux de cette dunya. Hein? C'était des gens qui n'accordaient pas d'importance à cette dunya et qui avaient fait passer l'akhira avant cette dunya. Et qu'ils avaient bien compris que dans cette dunya, c'était simplement un passage et qu'après, ils allaient mourir et que là, ils allaient être ressuscités pour la vie éternelle, ou en enfer, ou au paradis. Et on demande à Allah qu'il nous récompense du paradis. Alors si je récapitule tout ce que j'ai dit par rapport à Bilal, on s'aperçoit que donc dans cette personne-là, ce noble compagnon, il y a beaucoup de bonnes sifates. Notamment, j'ai cité beaucoup de choses qui m'ont attrait au cœur. On a vu qu'il y avait le yaqin. Ça, c'est un bon comportement envers Allah. Ça veut dire que tu es certain que seul, et Allah seul, est capable de te tirer de toutes les situations dans lesquelles tu es en difficulté. Et si tu penses, lorsque tu as une difficulté, que tu es dans une difficulté telle que Allah ne pourra pas te sortir de cette situation, sache que c'est un mauvais comportement vers Allah. On voit aussi que donc de cette certitude-là, qu'est-ce qu'il a? Il a placé sa confiance en Allah. وَمَنْ يَتَوَكَلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait preuve de patience. Il était certain qu'Allah allait secourir, il a placé sa confiance en Allah, et il a patienté. Il a patienté longtemps. Et il a patienté sur des choses dures. On voulait le tuer. On l'a torturé. Donc il a eu vraiment énormément de patience. Ensuite, une chose que j'ai oublié de citer, c'est qu'un jour le prophète est venu le voir et lui a dit, oh Bilal, quelle est la chose que tu fais dans l'islam à travers laquelle tu attends le plus de récompenses? Car j'ai entendu le bruit de tes sandales devant moi au paradis. Et Bilal a dit, à chaque fois que je perds les ablutions, je fais mes ablutions et je prie ce qu'Allah me permet de prier. Et le prophète lui dit, c'est ça. C'est donc ça. Et donc regardez chez cet homme-là aussi, parmi son bon comportement, c'est quelqu'un. Il a de l'ibada, hein? Il pratique l'adoration, il y est accroché, il est pieux, il se purifie. Et donc parmi les qualités aussi que j'ai citées, c'est donc sa force de caractère alliée à sa douceur et sa miséricorde envers ses semblables. Hein? Ce que j'ai cité aussi, c'est le fait qu'il délaissait le bas monde. D'accord? Et donc, pour terminer ce cours, je voudrais juste attirer votre attention sur l'élément moteur qui est donc le cœur de la personne. L'élément moteur qui va faire que tu as un bon comportement ou pas, c'est ton cœur. Et donc ton cœur, tu dois le purifier. Et sache que le cœur, comme a dit Ibn Qayyim, c'est comme un grand récipient. Un récipient. Si tu mets, par exemple, dans ce récipient, tu le remplis avec le liquide de la jalousie, alors il n'y aura pas de place pour le liquide de l'amour. Ça ne pourra pas se mélanger ensemble. Donc si tu veux avoir de l'amour pour tes frères, il faut que tu enlèves la jalousie. Pareil, si dans ce cœur tu mets l'amour pour l'écoute de la musique, alors il ne pourra pas avoir de l'amour et du plaisir à lire le Coran et à prier. Même si tu lis le Coran et tu prieras, et que tu as de l'amour à écouter de la musique, alors quand tu prieras et tu liras le Coran, tu n'auras pas de plaisir. Et tu ne pourras pas pleurer à la lecture du Coran. Si dans ce cœur tu mets l'amour de dunya, l'amour de dunya, alors tu ne pourras pas avoir l'amour de l'akhirah. Donc si tu veux avoir l'amour de l'akhirah, commence déjà par retirer l'amour de dunya, fais de la place, et ça va rentrer, et petit à petit ça va s'inverser. Si tu veux aimer tes frères, enlève la jalousie. Plus tu arriveras à enlever la jalousie, quand tu ressens de la jalousie, rejette-la, comme quelque chose de sale et de répugnant. Et à ce moment-là, il y aura de la place pour l'amour envers tes frères. Et sachez que ça, c'est le djihad nafs. C'est le djihad que nous devons tous mener. Personne ne peut se dire, moi, alhamdoulilah, mon cœur il est pur, j'ai besoin de rien faire. Non. Et sachez en plus, comme nous a dit le prophète, que les cœurs ils rouillent. Il faut les entretenir. Peut-être qu'à un moment donné dans ta vie, ton cœur il était pur, mais si tu ne l'entretiens pas, alors il va rouiller. Hein? Et donc chacun, chaque personne, il doit mener ce djihad. Et plus la personne elle va mener ce djihad, plus elle va voir ses défauts, plus elle va avoir de la tolérance et plus elle va négliger les défauts des autres. Donc plus nous voyons quelqu'un qui est préoccupé des défauts des autres, plus ça veut dire qu'en réalité, il s'est oublié lui-même. Donc il faut faire attention à ça. Hein? Le jour du jugement dernier, tu vas venir, de qui tu vas devoir rendre des comptes? Les actes de... Tu vas devoir rendre des comptes de tes actes ou des actes de ton voisin? Non, tu vas devoir rendre des comptes de ta personne. Donc, il ne faut pas négliger que chaque personne, elle doit commencer d'abord par se purifier. Et Inch'Allah, bien évidemment, si tu peux être un bien pour tes frères, n'hésite pas. Mais n'oublie pas que la première des choses, c'est que tu dois commencer par toi. Inch'Allah, je vais m'arrêter là. Allahumma inna nas'aluka جنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم نسألك رزقا طيبا وعملا متقبلا وعلما واسعا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم نسألك في الآخرة اللهم نسألك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين